Bonsoir à tous, c'est votre magazine régional sur CFM à Kiel Tour. Nous sommes ensemble comme tous les jours jusqu'à 19h à travers les départements du Tarn, du Tarn-et-Garonne, du Lot et de l'Aveyron avec plusieurs sujets, deux sujets aujourd'hui dans cette émission avant 18h30. Le premier nous concerne tous, de près ou de loin. Vous en avez certainement entendu parler du combat de nombreuses associations d'ailleurs un peu partout en France contre l'installation des compteurs Linky. On va parler de ce sujet et puis d'une façon générale de ces compteurs communicants et de ces objets connectés qui ne font pas a priori rêver tout le monde, avec notre invité ce soir dans les studios de CFM Rodez en Aveyron, Loïc Santiago. Bonjour Loïc.
Bonsoir.
Ouais, vous avez raison, bonsoir. Et puis encore beau, mais c'est déjà le tout début de soirée. Loïc, vous êtes membre du collectif du Vallon, une association aveyronnaise et plus particulièrement.
Et plus particulièrement du Vallon de Marciac. Notre collectif informe depuis 2 ans à travers de nombreuses réunions publiques dans tout le département, voire en dehors du département. Et beaucoup d'élus nous ont aussi reçu en réunion de travail ou en conseil municipal, car nous essayons, enfin, lors de ces réunions, de présenter les différents points de vue qui s'échangent sur la question des compteurs communicants, qu'ils soient d'électricité, de gaz ou d'eau, et toutes les problématiques qui sont attenantes.
Voilà. Alors, j'ai envie de dire, ce combat contre les longs compteurs Linky, hein, qui est le combat le plus emblématique contre ces compteurs communicants, ça fait quelques années dont on en entend parler. Alors au début, vous pouviez apparaître un petit peu, excusez-moi Loïc, je vais pas dire des illuminés, mais enfin bon, pas loin, mais on a le sentiment ces dernières semaines, en particulier ces derniers mois, que de plus en plus le droit et des élus vous rejoignent à aller dans votre sens, c'est vrai ou pas?
Tout à fait, tout à fait. Depuis plusieurs mois, le sujet a pris une ampleur médiatique qui est tout à fait intéressante, et se basant sur le travail des très nombreux collectifs en France, qui sont près de 500,
ouais.
Et sur l'appui des 600 communes qui ont pris position sur le sujet, quelle que soit la façon dont elles ont pris position, et les arguments qui ont été mis en avant ont été jugés suffisamment sérieux pour être repris par plusieurs élus nationaux, des députés, ou même des anciens ministres actuellement, ce qui montre bien que tous les arguments que nous mettions en avant depuis presque 2 ans se sont avérés fondés. Et puis, loin de nous, en fait, catalogués anti-technologie. Enfin, nous utilisons tous Internet de façon câblée pour certains, mais nous l'utilisons sans aucun souci. Et notre argumentation vise à mettre en avant d'autres systèmes, beaucoup moins problématique en termes d'atteinte à la vie privée, voire d'aspect sanitaire, qui aurait pu correspondre à ce qui est exigé par la loi et qui aurait pu correspondre aux besoins de la transition énergétique. Et on y reviendra, mais les compteurs communicants Linky en tant que tels sont des compteurs très peu justifiés pour la transition énergétique, et leur justification se trouve dans d'autres raisons commerciales qu'on pourra développer.
Voilà. Ouais, et vos arguments contre ces compteurs communicants, ils sont nombreux et très variés. On va développer évidemment dans cette émission à Kiel Tour ce soir sur CFM. On se fait un petit morceau de musique rapide, The Vaccinees, c'est CFM à Kiel Tour.
In my body's a temple, you can worship on my pivot, and I kick you in the teeth, sir. So even when you're spitting blood, you would save a thought for me. Cause I got so mad I held the world for ransom. Lord, before I'm mad, thank God I'm handsome, so handsome. I know I should be picking up the pieces. Everybody else I know is looking to me.
À qui le tour, magazine régional sur CFM, sur l'Aveyron, le Tarn, le Tarn et Garonne. On s'intéresse à ces fameux compteurs communicants, Linky et autres, dont de très nombreuses associations collectifs dénoncent l'installation. Et notre invité pour parler de ce sujet sérieux, aujourd'hui dans les studios de CFM Rodez en Aveyron, c'est Loïc Santiago, membre du collectif du Vallon, donc un collectif d'information sur les compteurs communicants. Oui, plusieurs arguments, Loïc, que vous avez évoqué contre l'installation de ces fameux compteurs, lesquels, pour nous rappeler un petit peu le problème ou les problèmes pour vous?
Alors, les principaux qui sont souvent mis en avant, pas seulement par notre collectif, mais par les 5 collectifs du département et les 400 collectifs en France, sont en premier lieu, par exemple, le coût du déploiement. Le coût du déploiement a été estimé entre 5 et 8 milliards d'euros pour une durée de vie des compteurs qui est estimée à 20 ans et une durée de vie des concentrateurs, sur lequel je reviendrai, qui est estimé à 15 ans, c'est-à-dire un coût de 5 à 8 milliards d'euros qui a été récemment épinglé par la Cour des comptes dans son rapport annuel de janvier 2018, qui montre que le bénéfice annoncé pour la transition énergétique ne sera pas là, et pour le consommateur non plus, et que, à contrario, le coût du déploiement serait facturé aux particuliers à partir de 2021 à hauteur de 130 euros par particulier de façon échelonnée sur la facture d'électricité par le biais des taxes d'acheminement. Donc le déploiement est loin d'être neutre pour le particulier, c'est l'un des premiers arguments. La durée de vie vient encore. Un autre argument qui revient souvent dans toute la presse régionale française, c'est les multiples dysfonctionnements qu'apportent les compteurs communicants suite à leur installation, des dysfonctionnements des appareils électroménagers. Par exemple, le compteur Linky étant beaucoup moins tolérant au dépassement de puissance. Par exemple, lorsque vous lanciez une machine à laver pendant 20 à 30 secondes, vous pouviez dépasser votre abonnement. Vous aviez un abonnement à 9 kV/ampère. Ouais. Pendant quelques secondes, vous passiez à 9,5 par exemple, et l'ancien compteur tolérait ce dépassement de puissance. Puis après, vous reveniez à la normale. Là, le compteur Linky à 9,01 par exemple, disjoncte, ce qui fait que énormément de particuliers, un chiffre qui a été estimé à hauteur entre 20 et 30% des foyers français selon l'UFC Que Choisir et le médiateur de l'énergie, doivent souscrire un abonnement supérieur de façon à pouvoir consommer de l'électricité et faire fonctionner leur appareil électroménager, alors qu'auparavant ça fonctionnait avec les anciens compteurs.
Mais alors ça, juste, ça veut dire quoi? C'est un dysfonctionnement de l'appareil qui est pas bien réglé ou...
Non, c'est un compteur qui est réglé de façon qui est beaucoup moins tolérant que ce que l'étaient les anciens compteurs. C'est parce que pendant quelques secondes, tous les foyers dépassaient un peu leur abonnement, le temps de lancer les machines à laver par exemple, parce que lorsqu'elles se lancent, elles consomment plus, mais une fois qu'elles sont lancées, la consommation revient à la normale. Les anciens compteurs le toléraient, le compteur Linky, qui dans lequel on a intégré un disjoncteur, maintenant un disjoncteur a été intégré au compteur Linky, ce disjoncteur est beaucoup moins tolérant au dépassement de puissance, ce qui fait qu'il disjoncte de plus en plus souvent, et ce qui pousse les particuliers à souscrire un abonnement supérieur pour le même type de consommation que ce qu'ils avaient auparavant. Voilà, c'est une des raisons qui est assez problématique. Une autre raison qui a été mise en avant, ce sont les méthodes de déploiement qui ont été employées par les sociétés sous-traitantes d'Enedis pour installer ces compteurs. Ces méthodes de déploiement ont été dénoncées unanimement par beaucoup d'élus au niveau national, y compris par notre ancienne ministre Ségolène Royal, car il faut savoir qu'Enedis, il y a un an, a écrit une fiche de consigne à toutes les sociétés sous-traitantes de pose qui incite les sociétés sous-traitantes de pose à tout faire pour entrer dans les propriétés privées des particuliers pour poser ces compteurs. Une fiche de consigne qui dit noir sur blanc, qui a été médiatisée par l'UFC Que Choisir. Vous avez un panneau propriété privée, dans le cas d'une résidence individuelle, ne pas en tenir compte. Il n'y a pas de portail, il n'y a pas de muret, l'accès est réputé se faire librement. Il y a un portail qui n'est pas fermé à clé, l'accès est réputé se faire librement. Il y a un cadenas sur le compteur, casser le cadenas, etc., etc. Alors, malheureusement, ces consignes d'Enedis ont été appliquées à la lettre par les sociétés sous-traitantes aveyronnaises, que sont la société Chavigné pour le centre et le nord Aveyron, et la société Syncom pour le sud Aveyron. Ce qui a poussé les principales, beaucoup d'associations aveyronnaises, par exemple le comité Coscontal, la fédération des Grands Cos, tous les collectifs aveyronnais et la Ligue des droits de l'homme, de la section de Rodez de la Ligue des droits de l'homme, a dénoncé ces méthodes de déploiement et a demandé la création d'une commission d'enquête parlementaire, puisque de multiples témoignages écrits d'habitants de tout le département nous sont revenus et qui montraient que Enedis, par exemple par téléphone, menaçait les particuliers d'arrêt de l'électricité s'ils n'acceptaient pas les compteurs, ce qui est totalement illégal puisque L'électricité est un produit de première nécessité qui est extrêmement réglementé et Enedis ne peut en rien couper l'électricité, mais il en faisait la menace auprès des particuliers. Des particuliers du Nord Aveyron se sont vus suspendre leurs travaux de raccordement pour leur nouvelle habitation parce qu'ils ne souhaitaient pas du compteur Linky pour leur nouvelle habitation. Donc la situation perdure depuis plusieurs mois. Ils sont toujours avec un compteur de chantier. Une autre famille du côté du Ségala a un compteur qui est en panne depuis plusieurs mois et ne souhaitait pas du compteur Linky pour le remplacer. Et Enedis les laisse avec un compteur en panne depuis plusieurs mois. Donc Enedis fait tout pour ne pas... a des méthodes tout à fait particulières avec des arguments plutôt fallacieux et ça va même plus loin avec des intrusions dans les propriétés privées, des personnes qui nous témoignent en disant on a un technicien de poste qui est rentré dans notre jardin contre notre avis, malgré le fait qu'on a envoyé des lettres en recommandé, etc. etc. Ce qui a poussé beaucoup d'élus dans le département de l'Aveyron et beaucoup d'élus en fait de tous bords politiques. Par exemple, la mairie de Millau, constatant, les méthodes de déploiement de la société sous-traitante Syncom dans le sud Aveyron, a décidé de prendre un arrêté de réglementation. C'est un arrêté qui ne remet pas en cause le déploiement, mais qui permet de ramener un peu de bon sens et de civilité dans les méthodes de déploiement employées. Cet arrêté stipule que Enedis doit prévenir auparavant les particuliers chez qui ils vont intervenir. Puisqu'il faut savoir que depuis plusieurs mois maintenant, par exemple sur Marciac-Vallon, la société Chavigné a arrêté d'envoyer des lettres aux particuliers pour les prévenir du jour de la pause. Donc énormément d'habitants se sont retrouvés un jour sans électricité pendant une demi-heure à une heure, sans savoir pourquoi, et tous les compteurs accessibles en limite de propriété privée ou accessibles dans les jardins ont été changés d'office sans que personne ne soit prévenu. Alors il existe toujours la lettre d'Enedis, mais la lettre de la société Chavigné qui précise l'heure et le jour n'existe plus. Voilà, ce qui fait réagir beaucoup d'élus au niveau départemental.
Donc la procédure d'installation et de remplacement de ces compteurs que vous dénoncez, on a bien compris. Le fonctionnement de ces machines qui oblige parfois certains à prendre un abonnement plus important, ok. Vous avez aussi évoqué l'aspect financier très parlant de ce matériel qui coûte cher à installer et qui a une durée de vie... importante, mais enfin pas non plus éternelle, donc qui demandera de sortir de l'argent supplémentaire de notre poche. Trois points pour particuliers sur lesquels vous insistez pour dénoncer l'installation de ces compteurs communicants. Alors il y a Linky, il y en a d'autres qui concernent l'eau, le gaz aussi, on va en parler. Ce dont on va aussi parler, c'est les arguments qu'on a le plus entendus. Moi j'ai pas mal entendu contre ces fameux compteurs, l'aspect atteinte à la vie privée. Vous allez nous expliquer si pour vous c'est un argument et important et pourquoi. Et puis d'autre part, les effets ou les conséquences de ces ondes électromagnétiques sur notre santé. J'ai déjà entendu ces arguments-là contre ces compteurs communicants qui doivent aussi concerner tous les autres objets connectés qui sont en train de nous envahir, mais en tous les cas, de se répandre chez nous. On va discuter de tout ça dans la suite de notre entretien avec Loïc Santiago, membre du collectif du Vallon, collectif d'information sur les compteurs communicants. C'est CFM à qui le tour jusqu'à 19h, magazine régional.
CFM, CFM sur le Grand Rodez, 107.9. 107.9. CFM.
L'entreprise bio de service à la personne en région Occitanie, c'est Fado Bioservice. Fado Bioservice, la garantie d'un nettoyage bon pour l'environnement. Les équipes de Fado Bioservice font votre ménage avec des produits bio certifiés EcoCert. Fado Bioservice, des prestations sur mesure, repassage, garde d'enfants, préparation de repas et même les traductions pour votre administratif. La liste complète est sur fadobioservice.com. Choisissez vos prestations et offrez des cartes cadeaux à vos proches. Offrez la fraîcheur dans le respect de l'environnement. Offrez Fado Bioservice.
Surplombant la vallée de l'Aveyron, entre Villefranche-de-Rouergue et Najac, se cache un magnifique château, le château de Longcol. Hôtel 4 étoiles avec piscine, jacuzzi et terrain de tennis, Anna, propriétaire et gérante, vous y accueille chaleureusement durant toute la saison. Implantation privilégiée, terrasse panoramique, cuisine gourmande et inventive, le restaurant gastronomique ouvre tous les soirs et les dimanches midi avec un menu unique de saison décliné en 3, 5 ou 7 goûts. Le château de Longcol, charme, nature et plaisir de vivre. Infos et réservations sur châteaudelongcol.com.
Envie d'exotisme, de dépaysement? Voyez les choses en grand. Le Palais de Montauban, le plus impressionnant buffet à volonté asiatique de la région. 90 plats au choix, wok, grillade, spécialités japonaises, chinoises, fruits de mer, desserts, pour 14,90€ seulement le midi et 20,90€ le soir. Une boisson et café compris. Faites-vous plaisir, le Palais de Montauban, buffet à volonté sur place ou plat à emporter, 1270 avenue de Toulouse à Montauban, 06 16 35 35 06. Pour votre santé, bougez plus.
La pop, le rock en Aviron, CFM. CFM 107.9 et 90.2.
À quel tour le retour toujours avec Loïc Santiago du collectif du Vallon, collectif d'information sur les compteurs communicants, enfin d'information surtout de lutte. Hein, Loïc, faut pas avoir peur des mots, contre l'installation de ces compteurs communicants, Linky ou les autres concernant l'eau et le gaz notamment.
Oui, alors on essaye de faire quand même une information la plus exhaustive possible. C'est pourquoi des élus nous invitent en conseil municipal, puisqu'on ne sont pas, nous faisons pas de l'information alarmiste, mais juste peut-être une petite aparté sur la possibilité de refus qu'ont les particuliers. Il faut se baser sur des déclarations publiques d'Enedis qui contredisent les écrits propres d'Enedis. Les dirigeants d'Enedis, pardon, Madame Gladys Larose, avait déclaré sur Radio Totem le 20 décembre dernier que ce que Enedis souhaitait, c'est que les techniciens qui interviennent respectent la propriété privée. Et si un client s'exprime lors du changement, respecte la volonté du client. Ce qui montrait bien que jusqu'à maintenant, c'était pas toujours le cas, et ce n'est toujours pas le cas. Madame Ségolène Royal a rappelé aussi que en aucun cas le compteur Linky ne devait être une contrainte imposée aux usagers. Et elle demandait à Enedis de faire cesser ses pratiques. Un directeur territorial de Bretagne, Monsieur Bernard Laurent, déclarait que si le client refuse, il ne s'exposait à rien, pas d'amende, pas de pénalité. Et un juriste, Maître Olivier Cachard, rappelait que en droit, dans le code de l'énergie, il n'existe aucune servitude qui impose aux particuliers la possibilité d'installer chez lui un concentrateur et un compteur Linky. Un concentrateur, c'est un petit boîtier qui récupère les données des compteurs communicants et qui les réémet en téléphonie mobile jusqu'à l'antenne relais la plus proche. Donc en droit français, il y a une possibilité de refus que nous essayons de faire valoir juridiquement.
Et vous nous expliquerez comment pratiquement il faut faire pour ceux qui sont intéressés, ceux qui n'ont pas déjà ce fameux compteur Linky qui est déjà quand même bien installé sur nos territoires. En Aveyron, Tarn-et-Garonne, Tarn. Moi chez moi par exemple j'ai un Linky. Hein. Alors, je l'ai pas vu arriver, mais il y est.
Alors sur l'agglomération ruthénoise, ça a été très compliqué puisqu'il n'y a pas eu de dialogue avec les élus de la mairie de Rodez. Mais pour ceux qui le souhaitent, ils peuvent écrire au collectif du Vallon. L'adresse est collectifvallon@gmail.com et s'ils sont dans d'autres départements que l'Aveyron, nous les redirigerons vers les collectifs locaux qui existent dans tous les départements et plusieurs collectifs par département, que ce soit du Lot, du Tarn, du Tarn-et-Garonne ou autre.
Et des collectifs avec qui vous êtes en relation
Collectifs, oui. Tous les collectifs communiquent entre eux depuis plusieurs mois et plusieurs années. Nous avons les adresses chacun des autres et nous envoyons les personnes les uns vers les autres. Pour revenir sur les raisons qui sont mises en avant comme étant problématiques au sujet de ce compteur communicant Linky, ce qui concerne par exemple l'aspect sanitaire. Alors,
voilà, parce qu'on n'avait pas fini, on avait fait l'aspect financier, l'aspect de ces machines donc, qui fonctionnent mais qui sont moins souples que les anciens compteurs, et l'installation que vous trouvez abusive de ces compteurs. Donc oui, moi j'avais évoqué l'aspect onde électromagnétique d'une part, et atteinte à la vie privée, les données qui partent on ne sait où, dont on peut craindre qu'ils en soient fait un mauvais usage. Vous commencez par ce que vous voulez.
Alors, quant aux ondes électromagnétiques, ce qu'on en sait, c'est plusieurs choses. Ça se base sur des thèses universitaires postérieures à 2010, de Télécom Bretagne ou d'autres, qui montrent que nos câbles du réseau, nos fils de cuivre, ne peuvent supporter des fréquences que jusqu'à 1 kHz. Actuellement, nous avons de l'électricité en 50 Hz et nos fils de cuivre peuvent supporter des fréquences jusqu'à 1 kHz. Il faut savoir que le système avec lequel fonctionnent les compteurs communicants Linky, ça s'appelle du courant porteur en ligne. Ce sont des fréquences d'information qui se surajoutent aux 50 Hz, des fréquences d'information un peu comme du Morse, et avec des fréquences qui sont de 64 kHz jusqu'à potentiellement 490 kHz. Donc, supérieur au 1 kHz. Ce qui fait dire à ces thèses universitaires que les câbles au-dessus de 1 kHz se mettent à réagir comme des antennes, c'est-à-dire qu'ils rayonnent plus que ce qu'ils ne rayonnaient auparavant. Ça, c'est une donnée incontestable qui a été mise en avant par plusieurs thèses universitaires. L'autre chose qu'on sait, et que Enedis n'a pas souhaité reconnaître pendant plusieurs années et qu'il ne reconnaît toujours pas, c'est que le courant porteur en ligne, loin de s'arrêter un peu magiquement au compteur, comme le disait Enedis, en fait passe bien dans toutes les habitations communication privée. C'est-à-dire que lorsque le compteur de votre voisin de gauche envoie un message au compteur de votre voisin de droite, puisqu'ils fonctionnent tous en grappe, le courant porteur en ligne passe par votre propre compteur, mais il passe aussi à travers votre propre compteur. C'est-à-dire que le courant porteur en ligne, le signal, le CPL, se retrouve dans votre habitation à raison de 4 à 6 fois par minute, c'est-à-dire à raison de 10 à 15 000 fois par jour, selon l'Agence sanitaire française, l'ANSES, qui a fait un avis révisé en juin 2017 et qui a publié le rapport du Centre scientifique et technique du bâtiment qui montre que le courant porteur en ligne passe bien dans toutes les habitations privées, qu'on ait ou non le compteur Linky, à raison de 4 à 6 fois par minute en zone rurale, 7 à 10 fois en zone urbaine.
Alors là, d'accord Loïc, j'ai envie de vous dire d'accord, mais et alors ?
Alors, juste pour finir sur ce point... L'ANSES recommande, c'est une recommandation officielle de l'ANSES, qu'un filtre soit proposé à tous les particuliers qui le souhaitent. C'est un filtre qui se, un petit boîtier qui se poserait entre le compteur et le tableau électrique de façon à ce que le CPL s'arrête et n'aille pas dans les habitations privées et que les compteurs continuent à communiquer à l'extérieur. C'est quelque chose qui ne remettrait pas en cause le déploiement. Le problème, c'est que ces filtres sont extrêmement onéreux. Il y a un marché du filtre qui s'est créé et que très peu de particuliers pourront y donner suite. L'argumentation de notre collectif étant que ce filtre devrait être proposé gratuitement par Enedis, puisque rien légalement n'autorise Enedis à injecter autant de CPL à ces fréquences-là dans toutes les habitations privées. C'est pourquoi nous souhaitons au niveau départemental, auprès de tous les élus que nous rencontrons, nous essayons de proposer une sortie par le haut. Nous essayons de proposer au niveau du syndicat d'énergie départementale une solution à tous les élus que nous rencontrons. Il se trouve que le syndicat d'énergie départementale qui s'appelle le SIEDA en Aveyron est l'autorité administrative sur Enedis. Et le syndicat pourrait réglementer le déploiement en disant vous respectez le droit de refus des particuliers et il pourrait aussi imposer à Enedis le fait de proposer qu'Enedis propose gratuitement un filtre à tous les particuliers qui le souhaitent. Sauf que depuis un an que nous avons fait valoir cette argumentation auprès du syndicat, le syndicat refuse catégoriquement de l'entendre, de nous recevoir, malgré le fait que le député du Sud-Aveyron, monsieur Arnaud Viala, député Les Républicains, ait écrit officiellement au président, monsieur Albespi, du syndicat, pour favoriser ce dialogue qui, pour l'instant, n'a pas eu lieu. Et nous le regrettons.
Voilà. Alors, petite question, parce que moi, donc chez moi, j'ai un compteur Linky depuis quelques mois maintenant. Bon, bah, j'ai pas l'impression d'être plus fou avant mon compteur Linky qu'après.
Alors, en fait, la réaction des particuliers de tous les Français aux ondes électromagnétiques en général va être propre au système immunitaire de chacune des personnes. Ce qui est intéressant depuis 15 jours, c'est que l'ANSES, donc l'Agence sanitaire française, vient de faire un rapport officiel, le premier sur la question de l'électro-hypersensibilité. Jusqu'à maintenant, beaucoup de généralistes, y compris l'ANSES, avaient tendance à psychiatriser ce qu'on appelle l'électro-hypersensibilité en disant les gens pensent que ça leur fait mal, donc forcément ça leur fait du mal.
Oui,
l'effet nocebo. Ouais. Là, l'ANSES vient d'écarter cette piste officiellement en disant ce n'est pas l'effet nocebo qui est à la base de l'électro-hypersensibilité. Il y a des causes biochimiques qu'il faut continuer à chercher, qu'il faut continuer à pousser la recherche en ce sens. Mais en tout cas, ce n'est pas une cause psychiatrique à la base. Donc l'ANSES vient de le reconnaître en disant même, a priori, que 3 à 4 millions de Français seraient concernés par l'électro-hypersensibilité, ce qui rejoint les estimations d'autres pays européens où l'électro-hypersensibilité est reconnue officiellement. Et en France, nous sommes pas loin de la reconnaître aussi. Voilà.
3 à 4 millions de personnes qui seraient sensibles aux ondes électromagnétiques. Allez, on va continuer de parler avec vous, Loïc Santiago, du collectif du Vallon d'information sur les compteurs communicants, évoquer un autre aspect qui vous fait lutter contre ces compteurs, le respect de la vie privée et du partage des données. C'est l'heure des infos sur CFM, les infos nationales, il est 18h.
Info, CFM, les infos.
Bonsoir à tous. La question des banlieues au cœur d'un rapport remis au gouvernement par Jean-Louis Borloo. L'ancien ministre propose un fonds de 5 milliards d'euros. Il plaide notamment pour la rénovation des écoles et des collèges et souhaite la formation de 5000 coachs d'insertion des éducateurs spécialisés dans le sport. Revenir aux fondamentaux à l'école, c'est le sens des mesures présentées aux enseignants par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Objectif, entrer au collège sans grosses lacunes. Au primaire, les élèves devront consacrer au moins 15 minutes par jour au calcul mental et les exercices d'écriture seront plus fréquents à travers notamment une dictée quotidienne. Les pistes de Nicolas Hulot pour la rénovation des bâtiments publics et privés. Le ministre de la Transition écologique veut réduire leur consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Il prévoit notamment une simplification des dispositifs d'aide. Ça ne s'améliore pas chez Air France. Après les pilotes, l'intersyndicale au complet lance un appel à la grève les 3, 4, 7 et 8 mai. Un nouvel appel à la mobilisation qui intervient le jour où la direction d'Air France lance une consultation ouverte à l'ensemble des salariés sur un projet d'accord salarial, un projet rejeté par les syndicats. La hausse des fraudes aux prestations sociales, plus de 45 000 cas l'an passé, c'est 5% de plus qu'en 2016. Il faut dire que les contrôles ont augmenté, plus de 35 millions en 2017. Un label œuf de France bientôt dans les supermarchés après le scandale des œufs au fipronil l'an dernier. Ce nouveau label en service dès le mois de septembre doit garantir des produits de qualité avec un cahier des charges strict. Les poules qui pondront ces œufs devront être nées et élevées en France. Le foot, Marseille en effervescence. L'OM joue ce soir sa demi-finale aller de Ligue Europa à domicile contre les Allemands de Salzbourg. L'autre demi-finale oppose Arsenal à l'Atlético de Madrid. Coup d'envoi de ces deux matchs 21h05. Et puis c'est officiel, Zlatan Ibrahimovic ne participera pas à la Coupe du Monde. La fédération suédoise l'a confirmé aujourd'hui. Pourtant, ces dernières semaines, le joueur des Los Angeles Galaxy s'était pourtant dit prêt à être du voyage en Russie. Voilà pour l'info, excellente fin de journée.
CFM. CFM. À Sébazac. 107.9.
L'esprit rock.
CFM. CFM. À qui le tour? 17h30, 19h. CFM.
Et CFM, toujours avec notre invité dans votre magazine régional sur l'Aveyron, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, un invité aveyronnais, Loïc Santiago, mais sur une problématique, un sujet qui nous concerne bien au-delà des frontières de quels que soient les départements, c'est compteurs communicants. Loïc, alors on parle beaucoup du compteur Linky parce que c'est lui qui est installé depuis plusieurs mois, mais il y en a d'autres, des compteurs communicants, hein, soit en voie d'installation ou dont il est question au sujet du gaz et de l'eau, notamment.
Alors, point important sur le gaz et l'eau, surtout sur l'eau, récemment, nous avons, et sans qu'on incite les régies et les syndicats des eaux du département, nous avons découvert que toutes les régies et syndicats des eaux du département de l'Aveyron n'avaient pas souhaité donner suite aux offres commerciales de compteurs à télérelève automatique, donc de compteurs connectés, que leur avaient faites les sociétés Veolia, Suez, la Sor ou Sogedo, c'est-à-dire des compteurs à eau qui fonctionnent par radiofréquence jusqu'à un concentrateur, puis du concentrateur jusqu'à l'antenne relais. Les régies municipales, que ce soit celle de Rodez, de Villefranche ou les syndicats des eaux du Mont-Basinois ou du Levezou-Ségala, n'ont pas souhaité donner suite à ces offres commerciales pour différentes raisons, mais les principales sont un souhait de préserver l'emploi des releveurs et que ces releveurs gardent un lien avec les habitants qu'ils rencontrent. A aussi été mis en avant par le syndicat des eaux du Mont-Basinois le fait que des concentrateurs supplémentaires et des antennes relais supplémentaires en zone rurale étaient malvenus et n'étaient surtout pas utiles. Voilà, donc il y avait une méfiance d'eux-mêmes de ces syndicats des eaux qui malheureusement n'a pas été retrouvée dans le domaine de l'électricité par le biais du syndicat départemental de l'énergie qui est le SIEDA. Quant au compteur gaz, nous avons récemment rencontré le responsable Aquitaine Midi-Pyrénées, Monsieur Arnaud Schneider, qui a été extrêmement cordial, extrêmement gentil de venir nous rencontrer pendant plusieurs heures. Et Monsieur Arnaud Schneider, donc responsable GRDF du déploiement des Gaspar, des compteurs connectés, nous a assuré que le droit de refus de tous les particuliers serait respecté et il suffisait à chaque particulier de téléphoner à GRDF pour que ce particulier soit sorti du périmètre de pose de GRDF. Qui plus est, Monsieur Arnaud Schneider a assuré qu'il ne ferait pas de procédure juridique contre les communes qui refuseraient l'implantation d'antennes relais, enfin de concentrateurs relais sur leur territoire. Actuellement, la mairie de Saint-Christophe-Vallon ou de Réal-Balsac ont refusé de telles offres.
Et vous pensez que c'est justement votre combat et celui de tous les collectifs à travers la France contre le compteur Linky qui commence à porter ses fruits sur l'installation d'autres compteurs?
Oui, alors on peut forcément le lier, on n'a pas de certitude, mais on sait que Monsieur Arnaud Schneider était au courant de ce qui se passait du côté des compteurs Linky, et on pense qu'il n'a pas souhaité reproduire les méthodes de déploiement de Enedis afin de préserver l'image de son entreprise comme étant encore un peu un service public, enfin étant encore un service public. Point particulier, et ça... de lui-même, il faut savoir que l'évêché de l'Aveyron, l'évêché de Rodez, n'a pas souhaité donner l'autorisation à GRDF d'implanter des concentrateurs relais dans tous les clochers des églises aveyronnaises. Et ce, de lui-même, sans qu'on le rencontre, et ce, pour des raisons d'atteinte à la santé. Donc en Aveyron, il n'y aura pas de concentrateurs relais pour le gaz dans les clochers aveyronnais. C'est pour ça que nous proposons aux élus de refuser l'installation d'antennes sur leur territoire. Voilà.
Très bien.
Petite parenthèse sur les compteurs Linky, enfin si vous me le permettez.
Allez-y.
Juste au sujet de la santé, il faut savoir que l'ANSES a fait un rapport en 2016 qui est tout sauf conclusif, puisque le rapport de l'ANSES qui a été amplement médiatisé par l'Association des maires de France comme disant a priori qu'il n'y aurait pas de souci pour l'aspect santé des particuliers en France, en fait le rapport de l'ANSES ne dit pas exactement cela. Une phrase clé qui est tirée de ce rapport de l'ANSES, et comme tous les rapports de santé, tout se joue sur la formulation des conclusions. L'ANSES disait en 2016 qu'il y a une absence de données sur les effets sanitaires dus à une exposition aux champs électromagnétiques des compteurs communicants. L'ANSES rajoutait qu'il y a une absence d'études épidémiologiques qui s'intéressent spécifiquement aux compteurs communicants et que l'analyse des études ne permet pas de conclure définitivement quant à l'existence ou non d'effets délétères. Donc on voit qu'on est loin d'un rapport conclusif qui dirait qu'il n'y a pas d'effet sur la santé.
Voilà. Ils savent pas encore, c'est ni oui ni non.
Et l'ANSES, 8 mois plus tard, a dit qu'il fallait continuer à pousser les études en génération 3 du courant porteur en ligne, car pour l'instant ça n'a pas été fait. Et point important, et on en vient sur peut-être le point de la potentielle atteinte à la vie privée, il faut savoir que le compteur communicant apporte une nouvelle fonctionnalité que n'avaient pas les anciens compteurs électromécaniques, qui est la courbe de charge. Une courbe de charge, c'est un graphique de la consommation qui enregistre les index de consommation tout au long de la journée, et il existe depuis plus de 15 ans des logiciels dans les centres de gestion d'EDF et d'Enedis qui permettent, en analysant la courbe de charge, de reconnaître ce qu'on appelle la signature électronique de chacun des appareils électroménagers. Par exemple, dès que ce micro ou ce néon est branché sur le réseau, se crée une variation de tension pendant quelques secondes sur le réseau qui s'appelle une signature électronique et qui est propre à cet appareil. Et ça s'enregistre dans la courbe de charge, je schématise, et des logiciels existent pour reconnaître la signature électronique de chacun des appareils. Voyant ceci, la CNIL a souhaité faire des recommandations pour protéger la vie privée des particuliers de cette potentielle atteinte à leur vie privée. Sauf que les recommandations de la CNIL qui ont été transcrites dans un décret en mai 2017 ne sont pas suivies entièrement par Enedis, puisque la CNIL a souhaité deux choses. La première chose, c'est que la courbe de charge soit enregistrée une fois par heure dans le compteur, alors que Enedis, pour l'instant, dans sa documentation technique, l'enregistre toutes les 30 minutes. Deuxième chose, la CNIL a souhaité que seul Enedis puisse faire la demande auprès des particuliers. Êtes-vous d'accord pour que Enedis, pour que la courbe de charge sorte de votre compteur et qu'on puisse l'analyser dans notre centre de gestion? Pour la CNIL, c'est seulement à Enedis de faire sa demande auprès de chacun des particuliers. Sauf que Enedis laisse la possibilité aux fournisseurs, que ce soit EDF, Direct Energy, Engie, de faire cette demande. Et lorsqu'on analyse la demande des fournisseurs, on se rend compte que les fournisseurs présentent la question de façon à ce qu'on soit obligé d'accepter. Puisque lorsqu'on analyse les conditions générales de vente, par exemple de Direct Energy, qui vient de se faire épingler par la CNIL avec une mise en demeure, on se rend compte que Direct Energy, lorsqu'on accepte l'offre d'électricité, on accepte en même temps que la courbe de charge soit analysée en même temps.
Mais alors Loïc, j'ai envie de vous dire, bon, ok, mais qu'est-ce que ça peut vous faire que quelqu'un d'autre sache que vous allumez le grille-pain à un moment donné?
Alors, pour certains, rien, mais disons que c'est le principe des objets connectés qui sont de plus en plus présents dans la société. Et si le sujet intéresse, j'engage à aller lire un écrivain qui a écrit dans plusieurs journaux, que ce soit le Journal du Dimanche, le Journal 20 minutes ou le Figaro, qui s'appelle Éric Sadin, et qui montre l'implication des objets connectés dans notre quotidien. Ou l'association Pièce et Main d'œuvre, par exemple, qui expliqueront ça bien mieux que moi. Le principe des objets connectés, dont le compteur Linky est la pièce maîtresse, et une des pièces maîtresses en France, c'est que grâce à ces objets connectés, donc grâce à ce compteur Linky, les opérateurs, ici Enedis, sera en capacité d'analyser nos modes de vie et d'anticiper continuellement sur nos modes de vie afin de nous suggérer tout au long de la journée, dans tous nos actes au quotidien, des actions à mener avec des visées commerciales. Par exemple, en analysant une courbe de charge, si bien sûr vous donnez votre accord pour cela, et donc tout sera fait pour obtenir votre accord en présentant la chose de façon commercialement avantageuse, un fournisseur sera en capacité, selon comment est paramétrée cette courbe de charge, de reconnaître si vous avez par exemple un ancien frigidaire ou un nouveau frigidaire, si vous avez des volets roulants ou pas de volets roulants. Et en fonction de ça, si vous avez donné votre accord, bien entendu, vous pourrez être démarché par des vendeurs de volets roulants ou de frigos connectés.
Allez, on va continuer de discuter avec vous, Loïc Santiago, de ces sujets très intéressants et de votre position. Donc, à travers plusieurs arguments contre l'installation de ces compteurs communicants, vous êtes membre, je le rappelle, du collectif du Vallon, un collectif aveyronnais, mais des préoccupations et des collectifs que l'on retrouve partout en France, notamment sur nos départements du Tarn et Garonne, du Lot, du Tarn et de l'Aveyron. 2 minutes de pub à peine et on se retrouve dans Aquiltour sur CFM, votre magazine régional.
Surplombant la vallée de l'Aveyron, entre Villefranche-de-Rouergue et Najac, se cache un magnifique château, le château de Longcol. Hôtel 4 étoiles avec piscine, jacuzzi et terrain de tennis, Anna, propriétaire et gérante, vous y accueille chaleureusement durant toute la saison. Implantation privilégiée, terrasse panoramique, cuisine gourmande et inventive, le restaurant gastronomique ouvre tous les soirs et les dimanches midi avec un menu unique de saison décliné en 3, 5 ou 7 goûts. Le château de Longcol, charme, nature et plaisir de vivre. Infos et réservations sur château de longcol.com.
Envie d'exotisme, de dépaysement? Voyez les choses en grand. Le palais de Montauban, le plus impressionnant buffet à volonté asiatique de la région. 90 plats au choix, wok, grillade, spécialités japonaises, chinoises, fruits de mer, desserts, pour 14,90€ seulement le midi et 20,90€ le soir. Une boisson et café compris. Faites-vous plaisir, le palais de Montauban, buffet à volonté sur place ou plat à emporter, 1270 avenue de Toulouse à Montauban, 06 16 35 35 06. Pour votre santé, bougez plus.
L'entreprise bio de service à la personne en région Occitanie, c'est Fado Bio Service. Fado Bio Service, la garantie d'un nettoyage bon pour l'environnement. Les équipes de Fado Bio Service font votre ménage avec des produits bio certifiés EcoCert. Fado Bio Service, des prestations sur mesure, repassage, garde d'enfants, préparation de repas et même les traductions pour votre administratif. La liste complète est sur fadobioservice.com. Choisissez vos prestations et offrez des cartes cadeaux à vos proches. Offrez la fraîcheur dans le respect de l'environnement. Offrez Fado Bio Service.
De la place du Bourg au quartier Bourran.
Vous écoutez CFM.
Vous écoutez CFM.
107.9.
SCFM, dernière partie avec notre invité ce soir, Loïc Santiago du collectif du Vallon, collectif d'information sur les compteurs communicants et collectif de lutte, hein, surtout aussi par ailleurs, contre l'installation de ces compteurs, Linky notamment. Vous avez évoqué plusieurs arguments depuis le début de cette émission. Alors quand même, là on était sur le partage des données, enfin le respect de la vie privée, qui n'est pas forcément respecté évidemment par ces objets connectés, alors compteurs communicants et puis tous les objets connectés qui commencent à arriver d'un peu partout. Mais moi j'ai envie de vous dire, Loïc, bon ok, à ce moment-là, revenons au Moyen-Âge, comme disait l'autre, repartons dans une grotte. Est-ce que vous n'avez pas aussi un petit peu le sentiment d'avoir un combat contre la modernité, quoi, contre l'avenir?
Absolument pas. Enfin, tous les participants de notre collectif, qui est tout de même assez conséquent, puisque nous informons plus de 1500 Aveyronnais depuis plusieurs mois. Tous ces participants au collectif ont internet, ont etc. qu'ils ont de façon câblée. Il y a aucun souci là-dessus. La question est de savoir, c'est est-ce que ces compteurs ont une utilité pour la transition énergétique? Alors, on a parlé du coût, mais il faut savoir que lorsqu'on analyse le travail des associations qui ont travaillé sur la transition énergétique, que ce soit les associations Négawatt ou les associations CLER, Comité Liaison Énergie Renouvelable, qui est un regroupement de 250 associations sur la question. Ces associations disent une chose, elles disent qu'un seul capteur supplémentaire par quartier ou par groupe d'immeubles au niveau des postes de transformation aurait été suffisant pour les énergies renouvelables et pour les énergies qui vont devenir de plus en plus intermittentes, que ce soit les énergies éoliennes ou les énergies photovoltaïques. Ces associations, que Monsieur Hulot connaît très bien puisqu'il s'est souvent appuyé sur elles, montrent qu'un seul capteur supplémentaire par quartier au niveau des postes de transformation aurait été suffisant. Et qui plus est, et ça montre qu'au sein même d'Enedis, une entreprise contre laquelle nous n'avons strictement rien à redire, puisque Enedis fait par ailleurs des travaux très intéressants pour le service public, mais sur ce sujet-là, ça, c'est particulier. Au sein d'Enedis, il existe des dissensions et des syndicats au sein d'Enedis ont montré, ils étaient contre ce projet en termes de perte d'emploi, puisque les estimations de Négawatt montrent que a priori, jusqu'à 10 000 techniciens de relève et techniciens de maintenance seraient supprimés du côté de chez Enedis. Mmh. C'est un chiffre qui est variable selon qui en parle. Mais ces syndicats montrent aussi qu'un seul capteur supplémentaire au niveau des postes sources, c'est-à-dire au-dessus des postes de transformation, aurait été lui aussi suffisant pour la transition énergétique. Et une chercheuse dans le domaine de l'énergie, une sociologue de l'énergie à Toulouse, Marie-Christine Zellem, qui par ailleurs n'est pas forcément très critique sur les compteurs communicants, montre que les arguments d'Enedis en disant « ce compteur Linky est un atout indispensable pour la transition énergétique », cette chercheuse montre que ces arguments-là sont des postulats hasardeux de la part d'Enedis. Pourquoi ? Parce que selon Enedis, le fait de voir un chiffre en kilowattheure sur notre compteur, même transformé en euros, va faire subitement changer les habitudes de consommation des particuliers et leur faire réduire leur consommation. Mmh. C'est quelque chose qui en débat chez les chercheurs, mais qui n'est absolument pas prouvé malgré l'étude du CNRS qui a été mise dans une tribune du journal Le Monde. Et cette étude du CNRS Petit Aparté ne concernait que 33 personnes dans le sud de la France qui participaient à une expérience et dont la caractéristique principale était d'avoir un revenu élevé selon les chercheurs, c'est-à-dire qu'ils consommaient déjà beaucoup et donc ils avaient une potentielle marge de réduction de leur consommation.
Ouais. Moi, par exemple, le j'ai un petit compteur de consommation de mes données sur le téléphone. J'y fais attention. Et pareil pour le chauffage. Je vais relever mes compteurs. Quand on a la donnée, c'est une raison supplémentaire d'une attention particulière et donc d'une économie potentielle parce qu'on sait qu'on paye au final.
Alors, pas forcément au niveau national. En fait, certaines personnes vont pouvoir réagir au fait de savoir que vous consommez, par exemple, 15 centimes de l'heure ce néon. Certaines vont pouvoir y réagir.
Ouais.
Mais derrière les habitudes de consommation, il y a des obligations de travail, il y a des obligations de familiales et beaucoup de personnes à l'échelle nationale ne vont pas pouvoir donner suite. Par exemple, si l'électricité varie de 1 à 8 tout au long de la journée, qu'elle est 8 fois plus chère à 19h, ben certaines personnes vont être obligées de consommer à 19h. Mmh. Par exemple, c'est ça qui a poussé le gouvernement du Canada à ne pas généraliser les tarifs variables qui sont amenés par la loi de transition énergétique en France. Le gouvernement du Canada et les associations de consommateurs là-bas au Canada ont montré que ça serait inégalitaire pour des familles qui ne pourraient pas donner suite à un prix d'électricité 8 fois plus cher parce qu'elles ont des obligations. Donc comme le dit cette chercheuse, ça reste des postulats hasardeux qui ne sont pas certains d'avoir des effets sur la consommation. Qui plus est, ça repose sur plusieurs hypothèses. La première hypothèse, c'est que les particuliers vont donner leur accord pour se faire analyser de façon précise leur mode de consommation et qu'en échange, les fournisseurs leur proposent des tarifs variables adaptés à leur propre consommation familiale. Sauf que la Cour des comptes a montré que seuls 1,5% des particuliers ont donné leur accord pour une analyse précise de leur consommation. Donc on voit mal comment Enedis va pouvoir proposer, et les fournisseurs vont pouvoir proposer, avec ce si bas chiffre, des tarifs variables adaptés à la consommation des particuliers qui devraient faire baisser la consommation au niveau national. Dernière hypothèse, Enedis dit que les particuliers vont donner leur accord pour faire ce qu'on appelle de l'effacement à domicile ou du report de consommation ou du délestage ciblé. Car il faut savoir que une des raisons principales qui explique ce compteur communicant et qui explique la pression industrielle qu'il y a derrière, c'est ce qu'on appelle le marché des objets connectés dans la maison. Le directeur délégué d'EDF, monsieur Marc Boileau, qui est à la tête de l'alliance CPL Génération 3, explique que la technologie de la Génération 3 du CPL, sur laquelle a été mis un protocole Internet, un protocole IPv6, est là pour la maison connectée et la maison intelligente, et donc la Google Home dont on entend parler. C'est-à-dire que si vous donnez votre accord du centre de gestion d'Enedis, le CPL Génération 3, enfin, le centre de gestion d'Enedis pourra rentrer en relation avec toute la future domotique qui va être branchée sur le réseau et qui sera équipée de puces reconnaissance à génération 3 du courant porteur en ligne.
Quand même, Loïc, bon, alors là, j'ai bien compris que, bon, tous vos arguments, ces compteurs communicants et autres objets connectés, vous en vouliez pas vraiment. Mais enfin bon, vous voyez pas quand même, y a pas quand même pour vous des aspects positifs en changeant un peu leur réglementation, en améliorant ces appareils. Vous êtes prêt à accepter ce qui peut sembler le progrès, quoi, l'avenir?
Non, alors le progrès, ce qu'on en fait, il peut y avoir un progrès social, un progrès écologique, et le progrès technologique n'est pas forcément ni social ni écologique. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on analyse les exigences législatives qui sont à la base du déploiement de ces compteurs communicants, on se rend compte que les compteurs électroniques déjà en place chez beaucoup de particuliers correspondaient à ce qui est attendu par les exigences législatives. C'est-à-dire une gestion domotique, des tarifs différenciés, le fait d'être relevable à distance, tout ceci était possible par les compteurs électroniques déjà en place. Ce que ne permettaient pas les compteurs électroniques déjà en place, c'était les potentialités commerciales qu'apporte le compteur Linky, qui sont les potentialités commerciales en termes de big data. Et ça, il faut avoir en tête la déclaration du directeur d'Enedis, monsieur Philippe Monloubou, qui déclare « Dorénavant, Enedis est un opérateur de big data qui va gérer 35 millions de capteurs connectés. » Et la seconde potentialité commerciale des compteurs Linky que n'avait pas les compteurs électroniques anciens, c'est la potentialité du CPL génération 3 et de l'émetteur radio Linky dont j'ai pas parlé, qui est un petit domino, une sorte de télécommande qui est optionnelle, qui permet d'actionner la domotique, d'entrer en relation avec la future maison connectée. Vous parliez de votre portable qui permettait déjà de toucher le chauffage, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça restait un choix personnel, qui était intéressant parce que vous étiez déjà dans cette démarche. La problématique, c'est que ce système est imposé à tous les particuliers avec un corollaire qui est une potentielle atteinte à la vie privée et un fonctionnement qui peut aussi porter atteinte à la santé des particuliers. Et qui plus est, qui n'a pas fait ses preuves en termes de transition énergétique.
Bon, on comprend. Alors, un, vous êtes très convaincant, vous avez de nombreux arguments. Loïc Santiago, c'est un peu au début, moi j'avais tendance à penser, c'est le combat du pot de fer contre le pot de terre. Mais enfin, des fois, le pot de terre, il gagne à la fin. Ça serait quoi pour vous la victoire, si doit y en avoir, on peut dire ça comme ça?
Mais ce qui est intéressant, c'est que ce sujet permet à tous les particuliers qui s'y intéressent, ils sont de plus en plus nombreux, des centaines de milliers de personnes en France, de prendre conscience des champs électromagnétiques en général et surtout du marché des objets connectés et de la société des objets connectés et de ce que ça peut impliquer dans le quotidien. Je reviens juste à une phrase, ce que dit le penseur Eric Sadin, c'est que à force de se faire suggérer tout au long de la journée des actions à mener grâce aux objets connectés, les particuliers peuvent perdre une capacité de réflexion, de délibération intime, parce qu'ils se font porter par l'intelligence de la technique, qui plus est, qui est présentée de façon extrêmement ludique et de façon profitable. Et c'est cette capacité de délibération intime qui peut être perdue et qui est problématique en général dans les objets connectés. Mais pour les compteurs communicants Linky, ça pose cet ensemble de problèmes, puisque le compteur Linky est une des pièces maîtresses de ce marché des objets connectés. Et donc une de nos victoires qui pourrait être au niveau du département, c'est que ce que nous essayons de faire actuellement, mais c'est entre autres, c'est que le syndicat d'énergie joue enfin son rôle d'autorité sur Enedis et réglemente ce déploiement et surtout fasse en sorte que les communes qui ne souhaitent pas de ce déploiement, puisqu'actuellement une vingtaine de communes ont pris position sur le sujet dans le département, puissent se voir proposer d'autres systèmes technologiques beaucoup moins problématiques et qui soient beaucoup plus avantageux pour la transition énergétique comme elles le souhaitent.
Merci beaucoup Loïc Santiago d'avoir été avec nous ce soir pour nous exposer tous vos arguments, votre combat autour de ces compteurs communicants. On vous retrouve, on peut prendre des infos auprès de vous directement au collectif du Vallon, rappelez-nous votre mail.
Alors collectifvallon@gmail.com et des réunions publiques vont avoir lieu demain à Saint-Comme-d'Olt, demain soir vendredi,
d'accord,
à Entrague le 15 mai. Le mardi 15 mai, à Monteil le 4 mai, et plus des réunions sont à prévoir à Riquista, à Almont-les-Genis et d'autres encore à prévoir dont j'ai oublié les dates.
Il y a de très nombreux rendez-vous sur le département de l'Aveyron, mais aussi sur les autres départements qui eux aussi ont leur collectif, des collectifs avec lesquels vous êtes en relation et communication. Merci beaucoup Loïc Santiago d'avoir été avec nous ce soir sur CFM. Bon courage, bonne continuation dans votre lutte, dans votre combat, et quand vous voulez, sur CFM.
Merci bien.